Et oui, Majid, chère fille, si ce nom ne vous dit pas grand-chose, eh bien je vous propose d'écouter ça. Voilà, et vous aurez l'air dans la tête pour toute la journée. Majid Cherfi, évidemment, c'est l'un des chanteurs du groupe Zebda, c'est le parolier même. Mais Majid Cherfi est beaucoup plus que ça, en réalité. Majid Cherfi est écrivain, il publie chez Actes Sud un livre absolument décoiffant, ça s'appelle « La part du Sarrasin ». Ça se passe à Toulouse, sur fond de violence des cités, de quête d'identité, on en parle tout de suite. Bonjour Majid Cherfi.
Bonjour.
Je suis très très heureuse de vous recevoir, j'ai été décapé, déplacé, vraiment décalé par votre livre. Vous avez un sens de la formule à nul autre pareil. D'ailleurs, au début de votre livre, vous dites combien vous vous êtes arraché les cheveux quand vous étiez jeune à enseigner les maths aux enfants de la cité, au point d'en conclure, c'est ce que vous dites dans le livre, qu'à une inadaptitude congénitale des Arabes à la logique mathématique. Bah, le livre, en tout cas, est la preuve que ce n'est pas le cas pour l'usage de la langue française. Bravo.
Merci.
Merci. C'est un très, 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 bel ouvrage. Alors, 4 ans, vous l'avez publié ce livre, hein, 4 ans après Ma part de Gaulois, également chez Actes Sud. La part de Sarrasin aujourd'hui, c'est deux parts de vous-même, Majid Cherfi. Est-ce qu'elles sont totalement irréconciliables ?
Ah, je ne dirais pas qu'elles sont irréconciliables, je dirais qu'elles sont inaliénables.
Inaliénables, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que l'une est liée à l'autre de manière, de manière radicale. Et je dirais même qu'il s'agirait de ne pas les dissocier sous peine de perdre son âme.
Est-ce qu'elles ont fait la paix ?
Non, elles n'ont pas fait la paix. Elles n'ont pas fait la paix parce que l'une a peur de l'autre.
Bah oui, on le sent ça.
Ouais. Voilà. Et donc, le monde dans lequel on vit n'aide pas à faire la paix quand on est comme ça habité par la multitude.
Alors à la fois gaulois, à la fois sarrasin, il y a une phrase dans votre livre que vous prononcez, que vous dites à votre maman, c'est la phrase taboue. Hein. Elle vous dit « Sois français, mais ne le deviens pas ». Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Ben, ça veut dire, alors, « Sois français », c'est « Élève-toi, émancipe-toi ».
Ah, tout de même ?
Oui, parce que français, c'est ça. Ouais. Dans la tête de nos mamans, être français, c'est être érudit. Mais ne le deviens pas, ne me quitte pas. Et alors, ne me quitte pas, c'est garde ce que j'ai en moi de la tradition, des us et coutumes.
Ne renie pas d'où tu viens.
Ne renie pas d'où tu viens, mais renie-le quand même.
Mais alors, d'où vous venez ? C'est l'Algérie. L'Algérie, dans la part du Sarrasin, finalement, il en est très peu question.
Oui, il en est très peu question parce que c'est justement la part infime.
C'est l'absence.
Qui est la mienne.
Ouais.
Alors, c'est l'absence, c'est aussi la mélancolie, la nostalgie, la perte d'une langue, d'une terre.
Vous y alliez, enfant ?
Oui, nos parents nous y ont amenés. C'est comme ça que le lien s'est fait parce qu'on a retrouvé des cousins qui ont été notre famille. Et depuis, c'est la famille du bled.
La famille du bled. Alors, cette tension entre les deux, hein, le sarrasin, le gaulois, elle est palpable à chaque page de votre livre. Alors, ça nous offre une plongée dans les années 80, puis 90. C'est à Toulouse, cité des Bleuets. L'actualité est émaillée de violence envers les enfants d'immigrés que vous êtes, donc. Et là, on prend conscience du racisme quotidien effrayant. Dont vous faites l'objet. Alors, vous ne rentrez pas en boîte de nuit, vous vous faites agresser en plein concert, parce que oui, hein, c'est aussi, j'ai oublié de le dire, on est autour de la genèse d'un groupe de musique, on comprend entre les lignes qu'il s'agit de Zebda, vous vous faites agresser en plein concert par des skinheads, on vous fait changer de nom au McDo, ou en tout cas là
au
où
boulot,
vous
ouais.
Au boulot,
ouais.
Vous êtes écraseur de steak en plus de ça, hein, ça ne s'invente pas. Comment on supporte tout ça ?
Eh bien, alors on le supporte parce que je fais partie de ces privilégiés qui ont eu accès au code. J'ai été au lycée, j'ai rencontré des petits Français amoureux de Léo Ferré, du cinéma italien, parfois japonais, de la littérature russe, de la chanson engagée, des filles. Et donc, on se retrouve voilà, dans un milieu privilégié et il permet de digérer toutes ces violences. Et les années 80, c'est aussi l'émergence du Front
bien
National.
Sûr, bien sûr.
C'est l'émergence, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir. Donc, c'est des choses qui se cognent.
Avec des espoirs qui vont retomber. Vous parlez de la marche des beurs,
La marche
qui
des
a nourri
beurs,
beaucoup d'espoir,
ouais.
et puis c'est retombé comme un soufflet.
Et c'est retombé comme un soufflet, alors que cette seconde génération qui était la mienne s'attendait à vivre. Alors, c'est les gens de gauche qui disaient ça. Vous allez voir, avec la gauche au pouvoir, la fraternité vaincra. Et on n'a jamais vu cette fraternité.
Vous attendiez quoi?
Et je ne sais pas à quoi on s'attendait, mais nous, on a vécu avec des parents qui ont tout le temps eu peur, qui ont tout le temps baissé la tête. Et on se disait, mais c'est pas possible de vivre en ayant peur de chaque lendemain. Et on a pensé qu'on n'aurait plus peur. Et ma mère a 84 ans, je crois qu'elle a encore peur quand Le Pen arrive et qu'il lui dise, maintenant, bateau, va-t'en. C'est quand même incroyable après 60 ans de présence.
Oui, parce qu'en fait, vous vous sentez en permanence rejeté, en permanence, vous lisez sur les gens qui vous entourent, sur leur attitude, le rejet, le mépris. Et du coup, c'est ça qui est fou dans votre livre, ça se transforme en haine de soi,
Oui,
en
oui.
dégoût. Vous dites, hein, l'aigreur tapissait nos cœurs, on a des faces fâchées, le dégoût d'être fils d'immigrés. On finit par plus s'aimer.
Oui, c'est le grand drame de l'immigration, c'est que à force de ne pas trouver d'issue, j'allais dire de l'extérieur. L'extérieur, c'est la France, c'est la République, l'État, etc. L'intérieur, c'est la famille, la tradition, l'islam. Et les deux ne vous permettent pas de trouver une voie parce que, voilà, parce que les deux sont habités par des peurs et des colères parfois justifiées. Parce que quand la gauche promet l'égalité des droits, et que vous n'avez pas le droit à un logement parce que vous êtes noir de peau, vous dites, mais enfin, il y a quand même un problème. Vous dites, mais c'est la République elle-même qui fait que toutes ces impossibilités, et si c'est la République qui a un problème, alors c'est le précipice, et quitte à mourir, autant avoir la haine.
Oh, c'était ça la cité, hein, vous dites dans votre livre, hein, on se faisait tatouer l'infamie de la même manière. L'infamie. La haine, vous l'avez toujours aujourd'hui?
Non, je dirais que avec certainement avec l'âge, elle s'est quand même beaucoup amenuisée, mais il faut toujours en garder un peu, quitte à être un peu condamné et quitte à pas trouver une issue, autant en conserver un petit peu comme une espèce de carapace.
Ou comme un aiguillon aussi pour permettre de vouloir continuer à faire changer les choses. Vous le faites avec ce livre, hein, je le
Absolument,
redis, hein, ça
oui.
s'appelle La part du Sarrasin.
Ouais.
Ça offre vraiment une plongée dans ce que. On est dans la peau d'un petit arabe, un petit rebeu, un
Ouais.
frisé, hein,
Ouais.
comment vous dites, un gris. Vous utilisez tous ces mots. Hein.
Il y a plein de petits mots.
Il y a plein de petits mots, hein, des formules savoureuses. Hein. Et alors beaucoup de violence
Ouais.
aussi dans la cité. Parce que vous dites, moi j'avais les codes.
Oui.
Moi, j'ai acquis les codes. Moi, j'ai eu. C'est ça qui vous a sauvé, c'est la lecture,
Oui,
hein.
absolument. On m'a beaucoup reproché de dire du mal ou d'avoir un regard dur sur la banlieue. Mais en fait, ce que je veux surtout dire que il y a dans ces milieux défavorisés quelques privilégiés qui ont accès aux codes. Alors pour quelles raisons? Alors
Eh ben oui.
voilà.
Eh oui, moi j'aimerais bien savoir à quoi vous devez votre liberté. Comment est-ce que vous avez réussi d'une certaine manière à faire reset, à réinitialiser votre disque dur? Pourquoi est-ce que vous, avec la mère que vous aviez, le père absent, vous m'avez dit tout à l'heure, hein, ma mère, elle était à la fois le père et la mère, comment est-ce que vous avez réussi à être l'homme libre, attaché, vous dites dans votre livre, hein, quand votre sœur vous parle de sa relation affective, elle demande votre avis et vous
Ouais.
dites, j'avais beau encourager, protéger, soutenir en toutes circonstances, la coutume lui avait imprimé son diktat jusqu'au fond du crâne, mais si je lui avais tenu un discours qui confortait le mythe, je me serais trahi dans mes fondamentaux les plus chers. Ces fondamentaux dont vous parlez, qui ont fait l'homme libre que vous êtes, comment vous les avez acquis? Pourquoi?
Bah alors, il faut évidemment qu'à l'intérieur de la cellule, il y ait quelqu'un qui fasse en sorte que vous vous armiez au niveau des codes. Mmh. Alors nous, on a eu une mère qui quasi nous attachait au pied de la chaise. Et j'ai cette vision des copains qui partaient en direction du terrain de foot à travers la porte vitrée. Et nous, en train de faire des devoirs, mes frères et sœurs. Ah. Et alors, au début, ce qui est une punition, ben, finit par devenir une arme parce que vous accumulez du savoir et tout à coup, l'accumulation de tous ces mots et de toutes ces idées font une espèce d'arme, une épée d'Excalibur.
Parce qu'en fait, votre maman, vous lui devez finalement beaucoup.
Oui, tout.
Tout.
Oui. Et 60 ans plus tard, elle me dit, tu me dois tout.
Aujourd'hui ?
Oui, aujourd'hui. Et donc là, je lève les poings et puis j'ai dit, monte sur le ring et on se cogne la face.
Encore aujourd'hui avec
oui.
votre maman de 84 ans.
Avec des mots, oui.
Parce que c'est ça aussi
elle me dit au pied. Alors après 60 ans, je dis dors.
Ah oui, voilà. Vous avez réussi. C'est ça qu'on découvre aussi quand même hein, dans votre livre. Hein. Vous avez échappé à la haine, même si vous nous dites parfois elle est encore là et c'est bien qu'elle soit là. Vous avez échappé à cette forme de patriarcat. Chez vous, ça prend plutôt la forme d'un matriarcat. On découvre ça dans votre livre, le poids de la tradition.
Oui.
Très fort.
Oui. Oui, parce que, si vous voulez, nos parents nous ont infusé de colère, de rancœur et de tradition. Un islam tout à fait inoffensif, mais de pauvre. Un islam voilà, un peu mythologique. Et ils nous ont... Donc voilà, il y a aussi cette transmission-là de la colère, de la
mais
peur.
Mais est-ce que c'est pas ça qui vous enferme dans un espèce de monde parallèle ?
Ben, le problème, c'est que comme ils sont victimes d'une société, on a envie de se porter à leur secours. Mmh. Ce sont nos parents. Et donc, on est pris à la fois dans cette espèce d'infusion qui patriarcale, on ne veut pas tout à fait la rejeter.
Ça rend schizophrène.
Parce qu'elle est leur identité.
Oui, il y a de quoi être schizophrène. Oui. À un moment, votre maman vous dit, vote si tu veux, mais ne le dis à personne. Si ton père l'apprend, il me tue.
Oui. Au moment où je veux être français, c'est ça ?
Oui.
Oui. Mon père me regarde les yeux mouillés. L'âme en peine en me disant tu vas pas me trahir, j'ai perdu 4 frères pendant cette guerre d'Algérie, tu vas quand même pas devenir français. Et alors ce que la République oublie, c'est ça, c'est que elle dit intégrez-vous, mais moi j'ai voulu être français, j'ai fait des démarches, mais j'avais aussi un père qui était plein de larmes, qui avait peur que je le trahisse. Et la faillite républicaine, c'est de pas comprendre ça.
Ça aurait été quoi pour vous devenir français ?
Ben, alors déjà, je me suis dit, il aurait fallu que la France, qu'on donne à mes parents la nationalité française et qu'on n'attende pas d'eux, avec tout ce poids qui était sur eux de la trahison, de devenir français. C'était même le contraire, c'était ne le devenez pas et repartez chez vous. Mmh. Donc, en quelque sorte, on récupère un peu de cette rancœur.
Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, Magie de Ferché, chère fille, à Toulouse ? Il y a eu une fusillade avant-hier soir, un homme est mort, la visite de 3 ministres pour renforcer les effectifs de police, le débat sur l'insécurité, on parle d'ensauvagement de la France, l'annonce d'un projet de loi sur les séparatismes. Séparatisme, vous en parlez évidemment aussi dans votre livre. Est-ce que ça a beaucoup changé par rapport aux années 80 de votre livre, Toulouse ?
Alors, il y a 30 ans, c'était une autre violence. Là, elle a pris un aspect, oui, certainement plus dur, parce qu'il y a des armes qu'on n'avait pas il y a une trentaine d'années.
Vos copains pour la marche hein, dont vous parlez dans votre livre, certains d'entre eux voulaient mettre le feu à la France. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui risquent pas de finir le boulot ?
Oui. Oui, parce que il y a une impasse. Il y a un moment où on entasse des gens qui ont plein de difficultés dans un même endroit et on leur dit ne soyez pas un ghetto, mais on vous entasse quand même. Donc, cette espèce de marmite finit par exploser. Alors, elle explose depuis plus de 30 ans par intermittence, et peut-être il y aura une explosion un peu plus lourde à venir, parce qu'on ne peut pas à la fois leur demander de ne pas être un ghetto et de tout faire pour que là, une famille maghrébine dépose un dossier HLM, elle finit aux Isards.
Eh bien, pour éviter l'explosion, je vous invite, vous qui nous écoutez, à lire ce livre. Ça s'appelle « La part du sarrasin ». C'est vraiment une plongée dans la vie des cités. On est dans la peau d'un arabe qui est aussi français et qui se débat avec ses identités. C'est aux éditions Actes Sud. Un immense merci, Majid Cherfi, d'être venu nous le présenter. Merci beaucoup.
Merci à vous.